Avec la crise de 1929, les politiques éducatives s'adaptent à un contexte de surproduction. On fournit aux enfants, aux écoliers, un environnement plus accueillant, à même de générer une dépendance qui se traduira plus tard par un souci plus fort de consommer que d'épargner. Aux États-Unis, les revues traitant d'éducation insistent sur le bon usage du loisir, jusque vers le milieu des années 30, où c'est la création d'emplois qui commence à primer. En France, c'est à ce moment où on invente le concept de retard scolaire, avec le réarmement et la baisse de la natalité, on peut en effet s'attendre à de plus forts besoins en main-d'œuvre. Au milieu des années 30, c'est aussi la stratégie révolutionnaire qui change. On sort de la radicalité pour adopter une stratégie de front populaire. En France, l'arrivée au pouvoir de la gauche amène à des expérimentations sur le plan scolaire, à contre-courant de ce qui est désiré notamment par la droite. Après la guerre, c'est le retour au soutien de pédagogie tournée vers l'enfant en France et aux États-Unis. Il faut des clients pour la consommation de masse. Mais à partir du milieu des années 50, on retrouve un enseignement plus strict, à même de pousser à une révolte prématurée à la fin des années 60. En effet, l'élite désœuvrée ne rencontre pas une masse de la population dont les attentes n'ont pas encore été déçues.
Et voilà le travail. Tout ça n'est qu'une information, une expérience simulée à la fois réelle et imaginaire. La totalité des informations accumulées par une personne dans sa vie n'est qu'une goutte d'eau dans un océan.
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi tout semble plus réel quand je rêve que lorsque je suis réveillé?
Les mathématiques telles que vous les avez connues jusqu'ici ont eu pour but d'arriver à une réponse stricte et définitive en partant de problèmes stricts et définitifs. Maintenant, vous entrez dans une toute autre aventure. Il sera question de problèmes insolubles qui vous mèneront toujours vers d'autres problèmes tout aussi insolubles. Les gens de votre entourage vous répéteront que ce sur quoi vous vous acharnez est inutile. Vous n'aurez aucun argument pour vous défendre, car ils seront d'une complexité épuisante.
Pour connaître la vérité, tu dois tout risquer.
Moi, j'ai connu que le quart d'heure de pause, c'est tout. Il y avait les perfos et les vérifs. On tapait en dactylo pour saisir le tout. Et quand on avait terminé, on passait tout à la vérif qui refaisait le même travail. Et quand elle détectait une erreur, la machine s'arrêtait.
Ah oui, il y avait des erreurs. Alors donc, c'était la collègue d'à côté qui vérifiait vos erreurs. Donc, t'as fait tant d'erreurs, quoi, hein, comme à l'école, quoi. Hein.
À la première erreur, l'élève recevra 15 volts. 30 volts à la deuxième faute, 45 volts à la troisième, etc. etc.
Alors qu'est-ce que c'est ces emplois? Ce sont ceux que je vois moi-même dans les universités dans lesquelles j'enseigne, à travers le monde. C'est-à-dire qu'au niveau le plus élevé, deuxième, troisième cycle, maîtrise, doctorat, c'est ce que j'appelle les technocrates. C'est-à-dire des gens qui, des technocrates analysés, qui sont formés à analyser des problèmes, problem solving. Et on leur fait croire qu'ils sont intelligents parce qu'ils font du problem solving. Alors que l'intelligence, ce n'est pas le problem solving. L'intelligence, c'est la formulation des problèmes. Celui qui est intelligent, c'est celui qui formule le problème, qui le met en énoncé, qui le met en termes de liens et de combinaisons, qui appelle une question. Et au niveau inférieur, qu'est-ce qu'on forme? Ben, on ne forme plus. 45% de la main-d'œuvre des multinationales américaines en particulier sont analphabètes totaux. Et les multinationales ne veulent pas changer ça.
Or, dans les transformations liées à ce qu'on appelle faussement, selon moi, le néolibéralisme depuis une trentaine d'années, on a vu que les institutions dominantes se sont rendues compte que c'était un enjeu important de l'éducation, qui était important de se l'approprier. Alors, on peut se demander si, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il pénètre le monde de l'éducation? Alors, je pense que quiconque regarde le dossier se rend compte que c'est vrai. Du primaire jusqu'à l'université, ça varie selon les pays. C'est pas la même chose aux États-Unis, au Canada anglais, au Québec ou en France. Ça dépend de l'histoire de chacun des systèmes. Ça dépend comment il s'est développé. Mais on voit une pénétration massive des corporations, des entreprises, du monde de l'industrie privée dans le système d'éducation.
Donc, ils ont arrosé les universités d'argent. On vous demande pas grand-chose, on les change. Vraiment rien du tout. Fermer quelques départements. Fermer, par exemple, le département de la nutrition et puis de l'étude des sols.
Et il faut le savoir, si on se trouve à l'égard de son jury et notamment à l'égard de son directeur de thèse aujourd'hui en opposition formelle, eh bien, on peut vous refuser la soutenance.
Ouais.
Parce que le camp des doctorants est devenu faible, comme le camp des salariés, bien que le directeur de thèse ne soit évidemment pas au sens économique un patron, mais enfin, il est quand même au moins en partie maître de votre carrière future. Oui. Même s'il ne peut pas la garantir, il peut vous la bousiller.
Ah, il peut te saquer.
Voilà.
Les marques sont bien sûr partout à Kidzania. Chaque société finance ses propres activités. Le but, c'est que dès leur plus jeune âge, les enfants développent l'esprit d'entreprise. Jetez un œil au restaurant fast-food. Les enfants s'habillent comme de vrais employés. Ils peuvent porter la casquette et la chemise verte. Les enfants ont alors l'impression que leur travail est valorisé. S'ils portaient leurs propres vêtements, ils n'auraient pas l'impression de travailler pour cette société.
Mais bon, fabriquer des hamburgers, c'est un peu moins glamour que d'être chirurgien dans le vrai monde. Et ici, c'est perçu comment alors?
Ce que nous enseignons, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie de valeur. Aucun métier n'est mieux qu'un autre. Ici, les enfants sont tous égaux. Et ce sont les parents qui, par la suite, orienteront leurs enfants vers tel ou tel métier.
L'éducation deviendra le prélude à la vie marchande, le prélude à l'emploi. Puis on a vu ça depuis une vingtaine d'années, effectivement, oui, des transformations semblables, avec des résistances, c'est important de le dire. De la même manière que ce phénomène-là se produit, en même temps se produisent des résistances, et c'est tant mieux. Le théoricien de l'éducation le plus influent des 50 dernières années, c'est pas un penseur de l'éducation ou un pédagogue, c'est un économiste. Hein? Alors, je dirais que vraisemblablement, le plus important théoricien de l'éducation, c'est un monsieur qui s'appelle Gary Baker. Alors, il est toujours vivant, il enseigne à l'Université de Chicago. Et ce qu'il a développé, s'explique en 5 minutes, c'est la théorie du capital humain. C'est l'idée selon laquelle l'être humain et ce qu'il sait constituent un capital dans lequel il faut investir et qu'il faut évaluer du point de vue de sa rentabilité économique. Cette théorie-là a été la plus influente dans le monde au cours des 50 dernières années. Elle a été la plus influente, je veux dire, dans les lieux où ça compte, c'est-à-dire dans les lieux où on influence les décideurs, dans les lieux où on influence les États, dans les lieux où on influence les ministres de l'Éducation, dans les lieux où on influence ceux qui vont prendre des décisions sur l'éducation. Le deuxième théoricien qui va mettre en place les mécanismes qui vont s'imposer maintenant, c'est Milton Friedman. Alors, Friedman, le père de l'économie monétariste, qui lui va proposer un système de vouchers, c'est-à-dire de bons d'éducation. L'idée étant là encore de faire pénétrer les mécanismes du marché au sein de l'éducation et de mettre en concurrence les écoles les unes contre les autres. Ces deux conceptions de l'éducation, ces deux théories de l'éducation dont on parle vraisemblablement jamais dans les facultés d'éducation, sont probablement les plus influentes des pensées de l'éducation des dernières années. Et c'est elles qui vont circuler ensuite au Fonds monétaire international, au sein de l'OCDE, au sein de la Banque mondiale. On va analyser les systèmes d'éducation nationaux du point de vue de ces outils-là.
L'enseignement supérieur assure la réalisation des manuels, même si un certain nombre de manuels d'histoire sont faits avec des professeurs du secondaire. Il y a toujours des professeurs, des gens de l'enseignement supérieur pour chapeauter et contrôler ces manuels. Et donc, les enseignants concerne directement la totalité de la population puisque passent entre leurs mains des générations entières de jeunes gens.